Quand ma femme allait travailler, quand les enfants étaient à l'école ou après à l'université, j'avais vraiment la maison pour moi. Et ce que je faisais à ce moment-là, c'était me lever, prendre une douche et puis me maquiller. Et je passais la journée en femme. J'allais faire des courses au supermarché. J'allais parfois acheter des vêtements ou des chaussures ou d'autres choses en boutique. Et quand, enfin, en fin de journée, au moment où les enfants allaient rentrer ou ma femme allait rentrer, je me démaquillais, je reprenais une douche. Et c'était toujours vraiment avec. Enfin, ça devenait presque de plus en plus dur et de plus en plus difficile. Et j'ai eu plusieurs moments où vraiment j'étais encore à moitié maquillé quand j'entendais la clé dans la porte d'entrée. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment le sentiment que ça ne pouvait pas durer, que ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas du tout que ça allait être ça. J'ai été surprise, mais j'ai accepté directement en fait. Pour moi, qu'il soit une fille ou un garçon, mais en fait, je m'en fiche. C'est mon frère, je l'aime. Donc voilà, peu importe.
Mais d'emblée, elle m'a dit qu'elle voulait devenir un garçon. Ce qui, évidemment, a refroidi toute velléité téléphonique ou de contact avec cette personne.
Un jour, il a 14 ans et il me dit: Maman, tu t'es trompée ou on s'est trompé. Ça, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Mais en tout cas, je suis un garçon. Et voilà mon nouveau prénom.
En fait, c'est pas binaire. Donc, je me sens pas elle ou il et j'ai l'impression que je fluctue et que j'ai les deux et que ça change. Voilà, que c'est mobile, c'est beaucoup plus fluide que ce que je ne pensais au début. Je crois que je suis sous le parapluie, le grand parapluie transgenre.
D'où vient ce flou dans ton regard? Pourquoi ça double dans le miroir? Au fond du reflet, quel est ce corps presque étranger? Il fallait bien se transformer.
La transidentité est au cœur du débat public. La nouvelle génération réinvente le genre, ou plutôt le métissage des genres. Des voix s'élèvent pour faire bouger les politiques normatives et contrer les lois discriminatoires. En obtenant des droits et des libertés au nom d'une communauté minoritaire, les trans ont pris les rênes. Depuis 2017, la Belgique a réformé le régime relatif aux personnes transgenres et modifié l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil. Une avancée incontestable, même s'il reste encore beaucoup à faire, comme le constatent les militants qui dénoncent les dictats du genre et les actes transphobes, malheureusement d'actualité. Aujourd'hui, ce sont des paroles plus apaisées, respectées et courageuses qui nous racontent des récits de reconversion épanouie, des proches qui encouragent, des partenaires qui se questionnent. Histoire de trans sur les chemins de l'identité. Un documentaire de Vinciane Meuchler. Une réalisation de Michel Bernard.
Mais il me laisse tellement seule avec ce sujet. Hier, par exemple, je lui disais que je te rencontrais. Et alors, je lui dis, est-ce que toi, tu trouves qu'en 15 minutes, il y a quelque chose d'important? Il m'a dit, ah non, 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 je ne m'en occupe pas. Tu vois, et clac, c'est nouveau fermé. Alors, je lui dis, ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu serais OK pour
corriger le vocabulaire à la fin du travail.
Il m'a dit, ça, c'est OK. Mais en dehors de ça, lui, non, non, il veut pas, il veut pas.
Au début du projet de ce documentaire, il y a une amitié. Celle que je partage avec Delphine, maman d'un garçon transgenre et de son long cheminement pour accompagner son enfant vers sa transition. « J'aimerais témoigner », me dit-elle, en me présentant un texte qu'elle a écrit pour celui qui est devenu son fils.
Il en faut de l'amour pour accueillir l'inconnu. Cela vaut dans tous les domaines.
Je ne peux parler que de moi, évidemment, de mon témoignage et de mon point de vue. Le reste m'est inconnu. L'enfant de 14 ans annonce sa transidentité. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Où me suis-je trompée? Nulle part. Je ne sais pas. Au fil des années, cette phrase m'accompagne comme un guide. Elle permet de rester calme, d'avancer. Je ne sais pas. Bizarrement, avancer dans l'inconnu apporte de la détente, une joie intérieure. Arrêter de vouloir tout contrôler, c'est rassurant. Et c'est fou ce que ça m'apaise. Je ne sais pas, me maintient dans l'amour. Accompagner un enfant transgenre est un chemin, comme l'accompagnement de chaque enfant d'ailleurs. Ce chemin-là est-il si différent? Mes deux enfants m'ont amené aux frontières de mes limites, mais les ont fait franchir bien au-delà. Alors j'ai eu le choix, m'ouvrir ou me fermer, accueillir ou rejeter, aimer ou pas. J'ai choisi d'ouvrir grandes les fenêtres pour créer un immense courant d'air. J'ai reculé, j'ai pris mon élan et j'ai sauté à gigantesques enjambées dans l'inconnu que m'a proposé la vie. Accueillir est la seule possibilité. Accueillir les craintes, les doutes, les questions, les recherches, les pleurs, le désespoir. Accueillir les doux bercements qui reviennent aussi. Accueillir infiniment les silences et les mots quand ils apparaissent. Rester disponible, surtout rester disponible. Accueillir la souffrance de l'enfant. Être soi-même suffisamment ancré pour accueillir tout. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as à vivre, mais je suis là. Ta sœur aussi, elle est là. Tes grands-parents, ton parrain, ta marraine, tes tantes, tes cousins, tes cousines, quelques amis, tes profs à l'école, ils sont là. T'attendais-tu à être entourée de tant de personnes? On ne choisit pas d'être une personne transgenre. On ne choisit pas. On le découvre. Avec une vérité déchirante qui fait pressentir déjà la ténacité de la douleur à vivre. Traverser ce parcours. Car c'est un parcours. Lorsque j'ai compris que c'était un chemin à vivre sur de nombreuses années, quelque chose, bizarrement, s'est détendu à l'intérieur. Inutile de se battre. Inutile de déployer des efforts démesurés. Inutile de vouloir que les choses soient autrement. Rechercher chaque information, accueillir tous les mouvements, lâcher, avancer, lâcher encore. Accueillir, encore et toujours, chaque jour, est le seul chemin possible. On veut protéger nos enfants. On veut tous protéger nos enfants. On voudrait leur éviter de souffrir, mais c'est impossible. Leur éviter de souffrir équivaudrait à les vouloir vivants à demi. Qui suis-je pour savoir de quelle expérience cette personne a besoin?
Diana est la sœur de Matt et la fille de Delphine. Elle a tenu à témoigner afin d'évoquer la complicité forte qui la relie à son frère jumeau.
Ça a dû être compliqué car il gardait ça pour lui pendant longtemps, je pense. Et donc là, il a vraiment vidé son sac. Et je crois que la première chose que je lui ai dit, c'est « Ah, mais je t'appelle comment ?» Je crois que à ce moment-là, nous, on s'appelait Sista, parce que c'était un petit diminutif sympa. Du coup, je lui ai dit « Ah, ce sera bro. » Et depuis, c'est maman bro, voilà.
Est-ce que toi, ça t'a fait poser des questions sur ta propre identité?
Oui et non. En fait, depuis toute petite, je me sens pas vraiment comme une fille à part entière. En fait, c'est pas que je me dis « Oh, peut-être que je suis un garçon ou pas », c'est juste que je m'en fiche. Genre, si quelqu'un a envie de m'appeler Diana, c'est, c'est ok si il y a quelqu'un qui veut m'appeler il, il y a aucun problème. Enfin, en fait, c'est juste que je m'en fiche. Et là, on entre dans un débat, ouais, clairement.
Venir au monde dans un corps avec lequel on ne se sent pas en conformité. Pour Bo van Spielbeek, tout débute dans l'enfance. Elle porte encore le prénom masculin de Baudouin quand elle commence à se questionner sur son identité. Il lui faudra attendre un demi-siècle pour décider de devenir Bo.
À 8 ans, c'était très flou. Il y avait à l'époque une soirée de variété qu'on organisait à l'école, au collège, un collège de garçons. Et en fait, on avait différents petits sketchs. Nous faisions une sorte de western, parce qu'à l'époque, tous les dimanches, pratiquement, il y avait un western avec John Wayne à la télé. Et on m'avait, donc, j'avais un chapeau de cow-boy et on m'avait dessiné une grande moustache que je trouvais horrible. Et il y avait un garçon, mais de 5e primaire, donc il avait 2 ans de plus que moi, et qui était la speakerine. Et il avait un pull à col roulé blanc et une perruque blonde avec des boucles et fort maquillée. Vraiment l'image des femmes sexy des années 60. Et moi, j'étais vraiment, à l'époque, jaloux, parce que moi, j'étais un vilain cow-boy avec une grosse moustache et il y avait un autre garçon qui pouvait être la jolie speakerine. Et puis l'année suivante, de nouveau, le spectacle de variété pour les classes des neiges, et le thème était le cirque. Et là, avec ma classe, nous étions les majorettes du cirque. Mais comme nous étions toujours une école de garçons, c'était tous des garçons qui étaient en mini-jupe, avec des petites bottes blanches et une sorte de chapeau qu'on avait fabriqué en carton. Et là, c'était, disons, ma première apparition sur scène en femme. À l'époque, le mot transgenre n'existait pas ou ne s'utilisait pas. On parlait de transsexuel et de travesti, des mots qui sont aujourd'hui presque choquants. Mais les seules personnes transsexuelles, pour utiliser ce mot-là, que je connaissais, c'était des danseuses nues, des chanteuses de cabaret, genre Coccinelle, les Bambi. Et à l'époque, je pensais d'abord faire une carrière universitaire. Et puis j'ai commencé dans le journalisme et je me disais tout ça n'est pas compatible avec cette transition que j'aimerais faire.
Bo van Spielbeek, journaliste à la télévision flamande, VTM, pour qui il a couvert de nombreux conflits armés.
Je connais pas mal d'exemples de personnes transgenres qui ont cette dualité et je me demande parfois si, et là je pense à ma propre situation, si ça n'a pas un rôle double, d'un côté un peu masquer la féminité, et d'un autre côté, je pense que c'était curatif, que ça allait peut-être pouvoir me guérir de mes pensées en justement faisant des choses assez masculines. Et bon, effectivement, j'ai fait du parachutisme, du planeur. Pour mon boulot, j'ai volé dans des avions à réaction. Par hélicoptère, on m'a treuillé sur un navire. J'ai suivi des cours pour faire de la compétition automobile. Toutes des choses qui finalement sont peut-être considérées comme plutôt masculines. Mais je crois que ça a toujours été une sorte de contrepoids pour justement essayer de compenser ou de rectifier ce que je croyais être la mauvaise voie.
Comment grandir dans les archétypes qui ne conviennent pas à tout le monde et se définir au-delà du questionnement identitaire? C'est la question que se pose Gabi. Assignée fille à sa naissance, la jeune femme refuse de se définir dans un genre établi.
Donc à un moment, c'est où je décidais de me prendre en main et de faire ce que j'avais à faire pour moi-même, ou alors je passais l'arme à gauche, parce que ça fait trop mal, c'est trop difficile de devoir correspondre à quelque chose qui ne fonctionne pas. c'est vraiment une violence. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ça, le pire, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'emprise. Et quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, alors là, on peut agir. Mais c'est par l'action. Moi, j'y vais très, très lentement. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont très vite. Moi, je vais très, très lentement. J'ai tout mon temps pour apprendre à me connaître, on va dire. Au début, il y a un déclic qui s'est fait. Un jour, j'ai ouvert toute ma garde-robe. À l'époque, j'avais une grande penderie. J'ai tout ouvert. J'ai pris un grand sac poubelle et tout ce qui était jupe, trop, prout-prout à foufrou et tout ça, j'ai jeté avec un grand sourire les bottes, les hauts talons, tous les trucs avec des broderies, avec des trucs bling-bling, hop là, et j'étais là, j'ai mis mon sac poubelle à pêcher, ouais, c'est génial. Et c'était une espèce de libération complète. Et c'était une euphorie, c'était waouh, c'est génial, je peux ne pas avoir tout ça et c'est pas grave. Et je peux choisir ce que j'ai envie de mettre, quoi. Je peux choisir de m'habiller en pantalon, je peux choisir de ne pas mettre de jupe, je peux choisir de... Voilà, et ça, c'était extraordinaire. C'est un des grands moments au début, quand je me suis rendu compte que je pouvais choisir.
Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de la Commune ? Donc pour moi, la Commune, c'était une scène de théâtre, une scène de cinéma. Mon enfant vient pour s'inscrire à la demande du changement de genre. Je te passe ici toutes les démarches administratives. Il y a eu une erreur. La première fois qu'il y est allé, la dame s'est trompée. Elle pensait qu'il venait juste pour des renseignements, alors qu'elle devait introduire la demande. Puisque 3 mois après, quand tu fais une première fois la demande, trois mois après, tu refais une demande pour bien confirmer que c'est ce que tu veux. Mais comme la dame n'a pas encodé la demande la première fois, quand on est allé pour une confirmation, il a fallu refaire la demande. Donc, ça aussi fait que ça a pris du temps. Un jour, donc, on est de retour à la commune, l'enfant réintroduit la demande et on lui dit d'attendre la réponse. La commune préviendra. Un jour, la commune prévient. C'est la veille des congés de Noël, le personnel est restreint. Il se présente à l'accueil, on le dirige vers les bureaux, mais les bureaux sont fermés. Sauf qu'il y a une employée qu'il reconnaît, elle lui fait un large sourire. Elle se souvient et lui dit « Attendez, attendre, encore. » Lui, il n'en peut plus d'attendre. Alors elle revient et elle dit « Les bureaux sont fermés, mais venez, moi je vais rallumer mon ordinateur. » Et du coup, ben, tous mes clichés sur les employés communaux s'écroulent. Merci madame. Et à l'arrière, dans les bureaux, il y a une dizaine d'autres employés qui sont encore là. Ils sont encore présents pour la plupart. Et ils ont le manteau presque enfilé sur le dos. L'ordinateur de la dame est allumé, mais son programme se plante. Alors elle demande à ses collègues de rester. Elle dit « Attendez, s'il vous plaît. Il attend depuis des mois. Il faut résoudre ça aujourd'hui. » Et les voilà tous à rallumer leurs ordinateurs, à déposer le manteau, à chercher, à cliquer, à reprendre un dossier, s'asseoir, chercher. Moi, je sens les larmes me monter dans les joues. Ils sont dévoués et touchants. Ils n'ont pas encore l'habitude de ce type de dossier. Ils reçoivent à peu près une demande par mois. Ce ne sont ni des dossiers, ni des fenêtres, ni des programmes, ni des procédures quotidiennes et habituelles. Chaque employé informe son collègue au compte-goutte de ce qu'il apprend sur le sujet, sur la loi, sur la procédure à suivre, au fur et à mesure des demandes qui arrivent. Mais cet employé-ci ne lâchera rien aujourd'hui. Les autres semblent d'accord. Le chef de service, celui qui atteste officiellement en dernier recours, par sa signature, débarque dans le bureau. Il se demande un peu ce que c'est, toute cette effervescence en fin de journée. L'employé lui dit « Reste encore s'il te plaît, on essaie de retrouver absolument un document et quand on l'a, je l'imprime, tu dois être là pour le signer. » Il y a un petit moment de silence, le chef ne comprend pas l'urgence, il ne s'intéresse pas vraiment au sujet, mais on dirait qu'il fait confiance lui aussi. Il dit « Bon, je suis dans mon bureau, quand ça sera fait, appelle-moi. » Elle dit « Merci. » Je le regarde et je répète « Merci. » Et j'entends mon fils murmurer « Merci. » Enfin, le programme fonctionne. Tous poussent un ouf de soulagement. L'un ou l'autre rentre chez lui, c'est quand même la veille de Noël, l'employé regarde mon fils dans les yeux et lui demande « Tu es certain, n'est-ce pas ? Parce que quand j'aurai appuyé sur le bouton de confirmation, ça sera irréversible. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière pour ton identité. » Il dit « Oui. » Elle clique, imprime le document. Appelle le chef. L'un ou l'autre s'en va encore. Le chef revient dans le bureau, prend le document, le signe à pose de cachet adéquat et dit « Joyeux Noël !» L'employé tend le document à « il »
Il tient dans sa main son droit légitime, reconnu, estampillé, conforme à être qui il est. Il regarde et dit « Merci ». Un peu plus tard, je lui propose de fêter ça avec sa sœur. Et il me répond « Maman, on a juste rectifié une erreur de départ. »
Au cours de la vie, eh bien, nous évoluons, notre identité de genre évolue.
Mats Nisol est cofondateur de l'ASBL Genre Pluriel.
Et on part du principe que, déjà, est-ce qu'une identité de genre doit être inscrite dans visiblement sur une carte d'identité, avec évidemment cette confusion, puisque il n'y a pas marqué identité de genre sur la carte d'identité belge, marqué sexe. Donc, déjà, c'est faux. Les cartes d'identité belges, pour moi, sont fausses, ne sont pas justes scientifiquement. Parce qu'on ne nous demande pas de nous déshabiller ou de montrer notre karyotype. Et que, aussi, le numéro national est genré. Et ça pose un problème pour toute la population. Parce que le problème, c'est que l'accès aux soins de santé est basé sur notre carte d'identité. Donc, si vous n'êtes pas considéré, ou en tout cas votre corporalité n'est pas identifiée ou identique à la norme, eh bien, vous avez des problèmes en termes d'accès aux soins de santé. Si vous faites certaines chirurgies, notamment si vous le désirez en tant que personne trans, eh bien, à un moment, vous risquez d'avoir des problèmes d'accès aux soins de santé. Mais aussi pour les personnes cisgenres, et ça, c'est important de nommer les termes, donc les personnes qui ne sont pas trans, on va dire, la majorité de la population, a priori, peut aussi avoir des problèmes avec cette norme binaire. Exemple, il y a quelques années, donc un homme cisgenre, ce qui veut dire que c'est un être humain qui est mâle et dont le point de confort est de se considérer en tant qu'homme, a eu malheureusement un cancer du sein et il a eu toutes les peines du monde à pouvoir avoir des remboursements de ses soins de santé et avoir un suivi médical pour son cancer. Tout simplement parce que l'INAMI n'avait juste pas percuté que un mâle pouvait avoir un cancer du sein. Donc cette norme binaire est préjudiciable pour l'entièreté de la population. Et donc ça, c'est encore à réformer, c'est encore à négocier, c'est retirer la mention de soi-disant sexe sur la carte d'identité et débinariser le numéro national. Aussi, pour revenir à la loi, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'accessibilité au changement de carte d'identité pour les mineurs. Pourquoi des jeunes peuvent changer leur carte d'identité qu'à partir de 12 ans? Donc ça veut dire que les jeunes à l'école primaire ne sont pas respectés dans leur identité de genre. Pour une personne et un jeune cisgenre, il ou elle est confirmé dans son identité de genre des petites, mais pourquoi ça serait à partir de 12 ans que les jeunes personnes trans peuvent être respectées? Non, l'identité de genre doit être respectée à tout âge, ni trop jeune, ni trop vieux.
Mariée depuis 30 ans avec Marianne, Beau a deux enfants, homme avec une vie de femme cachée.
Une double vie. Et en fait, donc, j'ai tout raconté à ma future épouse, Marianne. Bon, nous nous connaissions, nous nous sommes connus en faisant du théâtre. Évidemment, le théâtre, c'est aussi pouvoir être quelqu'un d'autre que soi. Nous étions déjà ensemble depuis tout un temps. Et tant ses parents que mes parents que nos amis, tout le monde était en train de nous pousser un peu en train de dire, ah ben, c'est pour quand et quand est-ce que vous allez vous marier, quand est-ce que vous allez annoncer tout cela. Et moi, je repoussais tout ça parce que je me disais non, ça n'ira pas. Et puis finalement, c'est lors d'une émission à la télévision néerlandaise, une émission où on parlait de, à l'époque toujours avec les termes utilisés, on parlait de travestis et de transsexuels. Et bon, j'ai dit voilà, j'aimerais que tu regardes avec moi. Et on a regardé chez ses parents, qui n'étaient pas à la maison ce jour-là. Et j'ai dit, voilà, moi, je suis comme ça aussi. Et puis, j'ai immédiatement ajouté, mais je suis sûr que si on se marie, tout ça va passer. Et dans quelques mois, je serai guéri. Évidemment, je n'ai pas été guéri, au contraire. C'est peut-être qu'au début du mariage, ça s'est un peu calmé. Et puis, je me suis vite rendu compte que ça n'allait jamais partir. À ce moment-là, il y avait aussi de plus en plus d'amis et de collègues qui étaient au courant. Presque toujours des femmes. À l'une ou l'autre exception près, c'était presque toujours des femmes. Je commençais aussi à m'habiller de façon plus féminine. J'ai acheté des bottes et la première paire de bottes avait des talons de 3 cm. À la fin, je portais des talons de 8 cm. À la rédaction, j'ai interviewé le Premier ministre avec des bottes, et j'avais mon pantalon dans les bottes, ce qu'un homme ne fait pratiquement jamais. J'ai interviewé Charles Michel, et je me souviens qu'il m'a regardé comme ça de la tête aux pieds. Et puis après, son porte-parole est venu me féliciter pour, enfin, du courage que j'avais eu. Mais je sais que ça faisait jaser. Et donc, à la rédaction aussi, j'avais des collègues qui me disaient, écoute, Beau, j'ai vraiment l'impression que tu es en train d'essayer de forcer les choses et d'obtenir que quelqu'un te révèle pour que tu ne doives pas le faire toi-même. Et effectivement, je pense qu'inconsciemment, c'était ça. J'allais de plus en plus loin. Je portais parfois du vernis à ongles incolore, un peu de mascara, mais pas trop. Et là, je n'avais plus une double vie. J'avais les deux vies qui étaient en train de se mélanger. Et je me rendais compte que ça ne pouvait pas continuer. Mais je laissais pousser mes cheveux. Et parfois, lors de directs, je me souviens, lors des incendies de forêt en France, en 2017, je devais vraiment plaquer mes cheveux et mettre de la laque et essayer de qui ne vole pas dans tous les sens. Mais pour que j'aie quand même une apparence un peu masculine.
Beau se souvient du 29 janvier 2017. Lorsqu'à 19h37, sa vie bascule. Soutenue par sa rédaction, elle annonce son coming out en direct à l'antenne.
Avant de faire mon coming out, et j'ai attendu pendant 20 ans, 25 ans, parce que j'avais peur d'abord de perdre mon boulot, de perdre ma famille, de perdre mes amis, et de me retrouver dans une petite chambre mansardée, toute seule, à pleurnicher. Le principe était que, comme les gens me connaissaient depuis près de 30 ans comme journaliste homme, ça allait être difficile de directement passer à Beau femme reporter. Et donc, le but était que je fasse une sorte de déclaration où j'annonçais ma transition en homme. Et ça a été vraiment une bombe. Ça a été une bombe et je me suis rendu compte, dans les minutes qui ont suivi, que c'était repris partout. Et j'ai été accepté par, je crois, une majorité du public flamand d'abord, et puis par après en Belgique francophone, en France, aux Pays-Bas. Et mon histoire a fait le tour du monde.
Goed, dankjewel, Baudouin.
Ja. Zit erop. Ja, zit erop.
Gisteravond een verrassend nieuwsbericht in het nieuws van VTM over een van de collega's die we tot nu toe kenden als VTM-journalist Boudewijn van Spilbeek. Want die komt straks voor het eerst werken als vrouw, als Bo van Spilbeek. Iets waar Boudewijn al jaren mee zat. En nu is daar, ja, de verlossing, neem ik aan. Nu is daar Bo, Bo van Spilbeek. Een heel goede morgen.
Ce qui compte, c'est que mon sexe mental est féminin. La dysphorie de genre n'est pas une question d'orientation sexuelle. Il s'agit d'un malaise, d'une sorte de court-circuit entre le corps et l'esprit. La dysphorie est le contraire de l'euphorie. Depuis mon coming out, j'éprouve un sentiment manifeste d'euphorie, de victoire, d'enrichissement permanent. Je n'ai même pas la sensation d'avoir perdu quoi que ce soit. Au contraire. Mais je me rends compte qu'il en va autrement pour les personnes de mon entourage. Elles ont dû faire leurs adieux à Beau, l'homme. De lui, il ne leur reste que des souvenirs. Par exemple, depuis des années, ma femme conserve les cartes d'accréditation que je reçois dans les cadres de mes missions de journaliste. Elle les a rassemblées dans une boîte à biscuits en fer blanc. J'ai l'impression que ces badges, où figure une photo de moi en homme, revêtent à présent une importance encore plus spéciale qu'autrefois. Je le comprends tout à fait. Depuis mon opération de réattribution sexuelle, Marianne a perdu son mari, l'homme dont elle est tombée amoureuse il y a 35 ans, celui qu'elle aimait toujours. Il a cédé la place à une femme en devenir, qu'il doit encore apprendre à aimer, et qu'elle ne pourra jamais aimer tout à fait de la même façon. À mes yeux, je suis restée la même personne. Je pose souvent la question, je n'ai pas changé, n'est-ce pas ? Si, tu as vraiment changé, je t'assure, répond toujours ma femme. Et à présent, je me rends compte qu'elle a raison.
J'ai toujours dit que j'avais trois raisons pour écrire ce livre. En premier lieu, d'abord, pour effectivement déposer cela, clôturer un chapitre de ma vie et bien commencer un nouveau chapitre. Deuxième raison était effectivement pour éventuellement aider d'autres personnes qui avaient des sentiments similaires, peut-être pas exactement les mêmes, mais similaires. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de réactions de femmes transgenres, d'hommes transgenres, mais pas seulement de mon âge, mais également des jeunes, hein, des ados, des jeunes de 15, 20 ans, 25 ans. Et la troisième raison, c'était pour faire connaître au grand public, qui n'est pas nécessairement au courant de ce que c'est, faire connaître la vie et le mental, disons, les idées et ce qui trotte dans la tête des transgenres. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas et donc ont quelques appréhensions. Et j'ai essayé par ce livre de les enlever.
D'où vient ce flou dans ton regard ? Pourquoi ça double dans le miroir ? Au fond du reflet, quel est ce corps presque étranger ? Il fallait bien se transformer.
À 80 ans, Jacques Socher vit une histoire d'amour avec Dominique. Lui est philosophe, proche de la pensée de Lévinas, c'est un auteur reconnu. Elle admire son travail et l'attend à la fin de ses conférences. Elle a 40 ans de moins que lui et commence un traitement hormonal.
Et à ma grande surprise, cette femme qui voulait devenir un garçon était quand même vraiment une femme. Androgyne, je l'ai appelée femme à ce moment-là, pour trouver quelque chose qui n'est ni elle ni il, parce que si c'était elle, ça la vexait, et j'étais incapable de dire il. Elle a une piqûre une fois par mois, donc c'était un devenir homme qui venait de débuter. Avec des transformations, il y a un an qu'on se connaît maintenant, assez minimes. Oui, mais évidemment, la voix change, mais ça ne me dérange pas. Une voix grave a quelque chose d'émouvant, de touchant. Mais l'apparence va changer. Bientôt, quand on la verra, on dira monsieur et non pas madame. Et puis, il y a un tas de phénomènes qui vont se passer. Je ne sais pas, la moustache, on peut se raser. Et puis il y a un tas de phénomènes plus intimes qui vont se dérégler. Et donc il y a une... Je ne sais pas de comment l'avenir sera fait.
My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
Je ne lui dis jamais tu es la femme ou le femme de ma vie. C'est une très belle histoire à laquelle je tiens. J'espère qu'elle va durer. Mais il y a une dissymétrie qui n'est pas uniquement physique, qui est dans la demande aussi. Et enfin, il y a quand même peu à peu le regard de l'autre. Comme je ne cache pas mon existence, avec mes amis les plus proches, pour mon anniversaire, elle était là, avec ma fille, avec mes amis les plus proches. Donc, c'est pas Backstreet, c'est pas la femme cachée. Donc, il y a une transparence. Il y a des photos qu'on fait ensemble, qui sont postées sur Facebook, etc. Bien, mais à un moment donné, quand le regard de l'autre sera... écoute, Jacques, tu es avec un beau mec maintenant, qu'est-ce qui t'a changé de bord? Ce qui peut arriver dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas. Je n'imaginais pas ça. Donc, à mon âge respectable, entre guillemets, ce qui m'arrive est inouï. Et donc, outre l'amour que j'ai vraiment pour cette femme, c'est l'expérience nouvelle, inattendue, qui me comble. Je ne pensais pas faire cette expérience physique, épistémologique, intellectuelle, tout ce que tu veux. Je ne pensais pas. C'est un enrichissement d'avoir connu ça. Et donc, même sur le plan philosophique, j'ai comme un ravissement de ça.
Et pourquoi est-ce que tu as accepté aujourd'hui de témoigner ?
Parce que tu me l'as demandé. Que ça peut être intéressant au-delà de mon cas personnel. Pourquoi pas ? C'est la dernière privée et publique. J'ai toujours essayé que mes paroles, mes pensées, mes actes coïncident. C'est pas facile, mais c'est le minimum éthique. Et donc, ça aurait pas été éthique de refuser de témoigner.
Les termes... Les plus corrects sont majoritairement utilisés. Donc le terme transgenre est utilisé, les identités de genre, les transidentités sont clairement de plus en plus utilisées. Ça, c'est vraiment une grande, grande évolution. Ouais. On a dû un peu taper sur du poing sur la table. Hein. Parce que l'excuse, c'est « oui, mais les gens ne vont pas comprendre ». Bah, si on ne parle pas, forcément qu'ils ne vont jamais rien comprendre. Hein. Ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
On va parler des personnes transgenres. Mais il y a des personnes transgenres qui réclament d'être appelées transsexuelles. Parce que pour eux, c'est une affaire de sexe, de zone génitale, de sexe, vraiment. Moi, j'ai rencontré des personnes transgenres qui... ne sont pas du tout choquées par le fait d'être appelées transsexuelles, qui trouvent même que c'est plus parce qu'elles ne l'associent pas à l'historique psychiatrique, hein, mais associent au fait que c'est vraiment... elles veulent changer de sexe. Donc c'est le sexe. Et donc c'est ça qui est... Le mot porte bien son nom. Et donc, voilà, il y a toutes ces perceptions différentes qui forment en fait un tout assez intéressant au point de vue théorique. Et effectivement, quand je côtoie ce milieu, je trouve que c'était assez riche. Mais je réussissais pas assez à penser à moi, je crois. C'est pour ça qu'à un moment, j'étais plus trop dans la théorie. Puis ça peut prendre la tête aussi de tout le temps commencer à théoriser le moindre truc qu'on vit. Et puis parfois, ça marche pas du tout. Ou alors on écrit un livre, peut-être.
voilà, ça c'est, il y a vraiment tout un volet formation, pédagogie, et aussi auprès de praticiens, de professionnels actifs. Et c'est ça notre volonté, c'est de créer aussi une alternative aux équipes de genre. C'est bien de critiquer, mais il faut aussi proposer. Et donc ça, c'était aussi notre volonté, c'est de proposer autre chose. Et donc, on a créé un réseau psychomédico-social trans et interbelge qui regroupe des professionnels psychomédico-sociaux formés sur base d'une charte. Pour l'instant, il y a la charte déontologique et il y aura bientôt une charte méthodologique. Donc, notre réseau se structure au fur et à mesure, parce qu'il est assez jeune, hein. Officiellement, il a 3 ans. On l'a testé avant de l'officialiser pendant aussi une bonne 3-4 ans, pour voir si ça fonctionnait. Et ce réseau est basé sur les droits humains, le droit des patients et l'autodétermination.
À l'époque où je commençais vraiment à me dire que je ne pouvais pas continuer comme ça avec cette double vie, que je vais peut-être franchir le pas, ma collègue qui s'occupe du cinéma et qui était au courant de ma double vie m'a dit « Écoute, Beau, il y a un film que tu dois absolument voir, c'est Une nouvelle amie de François Ozon. »
Ah, Elisa Robert. Bonjour.
Oh. Bonjour. C'est horrible, les enfants, c'est horrible.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Une voiture l'a percuté alors qu'il traversait hors du clou.
Et comment il va? Ben, il est inconscient dans une sorte de coma. Le médecin dit qu'il peut rester comme ça. Oh, c'est atroce. Laura qui nous quittait 6 mois et maintenant David.
Mais attendez, Lise, il est encore vivant, on l'enterra pas.
Oui, vous avez raison, mais je pense à Lucie qui risque d'être orpheline, c'est pas juste.
Ouais, elle est où, Lucie?
Chez la nounou. Tu sais, c'est trop difficile pour nous de nous en occuper.
Et David, on peut le voir?
Oui.
Oui.
Mais. Nous devons vous dire quelque chose avant.
Et quoi?
Dis-le.
Voilà. David, on ne sait pas pourquoi, a été retrouvé habillé en femme.
En femme?
Oui. Mmh. Il portait une jupe et une perruque.
Ah bon?
On a du mal à expliquer pourquoi il était dans cette tenue.
Moi, j'ai pensé qu'il allait peut-être à une soirée déguisée.
Mais non, c'était en plein après-midi, Robert.
Oui.
Bon, évidemment, je vous demande de garder ça pour vous. Personne ne doit le savoir.
Mais bien sûr, Lise, faites-nous confiance.
J'ai immédiatement commandé le DVD, je l'ai regardé et je me suis dit au masculin que c'était vraiment ça, quoi. Au début, on peut encore avoir des doutes au début du film. Est-ce que c'est une personne qui aime tout simplement s'habiller en femme ou est-ce qu'il il veut vraiment devenir femme? Mais là, les dernières scènes où on revoit la personnage principal avec la petite fille de son ami décédé est tellement touchante, mais c'est presque c'est un conte de fées, hein. Une nouvelle amie, c'est presque un conte de fées, mais ça m'a également ouvert les yeux et ça m'a également convaincu que c'était possible. Et donc le film Une nouvelle amie, tout comme le film A Danish Girl, au sujet de la première transgenre au monde, sont vraiment deux films qui ont été très importants dans ma décision. Quand je m'habillais en femme les jours où j'étais libre et où il n'y avait personne à la maison, ça devenait de plus en plus difficile, de plus en plus dur d'enlever ces vêtements et de retrouver cette vie d'homme, une vie que je commençais de plus en plus à haïr. Et c'est la raison pour laquelle je postposais mon démaquillage et jusqu'à vraiment courir le danger d'être découvert, même si ma femme savait que je passais mes journées en femme. Ça, elle le savait, mais à ce moment-là, l'accord était un peu « Écoute, tu fais ce que tu veux quand tu es seul à la maison, mais tâche d'être quand même présentable en homme quand je rentre du boulot. » Et de plus en plus, je repoussais le délai parce que ça devenait difficile et pratiquement impossible. Et donc ça, c'est ce que j'ai retenu de « Danish Girl ». Et pour François Ozon et une nouvelle amie, c'est vraiment cette dernière scène où on les voit s'en aller, la petite fille et la nouvelle amie, main dans la main, et qui vraiment, oui, est une sorte de conte de fées qui s'est réalisé et qui m'a aussi vraiment déterminé à aller jusqu'au bout. Maintenant, je suis revenu à la normalité. J'ai une vie normale, mais comme la femme que j'aurais toujours dû être. Je fais le boulot que j'aime toujours. Je suis entouré des gens que j'aime. Et donc, l'euphorie, c'est redevenu, c'est tout simplement le bonheur. Ce n'est plus un état d'excitation extrême, mais c'est le bonheur. Et je sens vraiment que je suis... je suis comblée, je suis heureuse. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle je raconte mon histoire relativement facilement, parce que pour les personnes qui souffrent, comme moi j'ai souffert pendant des années, c'est bon de savoir qu'il est possible de quand même réaliser ses rêves et de vivre une vie normale dans le genre... qu'on voudrait être, qu'on a toujours été et qu'on n'a pas pu exprimer.
Histoire de trans sur les chemins de l'identité. Merci à Beau Van Spielbeek, Jacques Secher, Delphine, Diana et Gabi, ainsi qu'à Max Niesel, psychologue et cofondateur de Genre Pluriel, association de soutien et de défense des droits des personnes transgenres et intersexes. Un documentaire de Vincent Meuchler, réalisation et montage Michel Bernard, mixage Delphine Dupont. Une production Unité Nomade.